Le psaume que nous avons lu, que Simone nous a lu, nous parle de Dieu, de sa grandeur, de ses exploits, de son caractère aussi. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a l'impression, à travers ces quelques paroles du psaume 145, que David, qui l'a écrit, eh bien, il a l'air de bien connaître le Dieu qu'il est en train de décrire et qu'il est en train de louer. Oui, David connaît son Dieu pour parler de lui ainsi. Et cela m'a fait me demander, et nous alors, qu'en est-il de nous? Le connaissons-nous bien aussi, notre Dieu? Pourrions-nous en parler de la même manière que David? Ou encore, autre question, quelle place laissons-nous finalement à cette recherche de la connaissance de Dieu dans notre vie chrétienne, occupée par tellement d'autres choses ou d'autres activités? Lui accordons-nous la bonne place? Le matin du 7 janvier 1855, le pasteur de l'église de New Park Street en Angleterre voulait montrer la pertinence pour les chrétiens d'approfondir leur connaissance de Dieu, commença son sermon de la manière suivante. Et je vous invite à remonter le temps d'environ un siècle et demi et à écouter ces paroles qui vont nous servir d'introduction. On a dit que le sujet qu'il convenait à l'humanité d'étudier, c'était l'homme. Je ne m'opposerai pas à cette affirmation, mais je pense qu'il serait tout aussi vrai de dire que le sujet qu'il convient aux élus d'étudier, c'est bien Dieu. La plus noble des sciences, la plus profonde des méditations, la meilleure des philosophies qui puisse jamais captiver l'intérêt d'un enfant de Dieu, c'est le nom, la nature, la personne, l'œuvre, les actions et l'existence du Dieu immense qu'il appelle son Père. Il y a dans la contemplation de Dieu, quelque chose d'extrêmement bénéfique pour l'esprit. C'est un sujet si vaste que toutes les pensées se perdent dans son immensité, si profond que tout orgueil est submergé par son infinité. Aucun thème de méditation n'incline plus l'esprit à l'humilité que la pensée de Dieu. Mais en même temps qu'il s'humilie, l'esprit s'enrichit. Celui dont les pensées s'élèvent souvent vers Dieu aura l'esprit plus ouvert que celui qui se traîne sans autre horizon que notre monde borné. Rien n'ouvre plus l'esprit, rien n'exalte plus l'âme humaine qu'une recherche fervente, sérieuse et persévérante de Dieu. Et puis enfin, c'est un sujet d'étude qui est source de consolation. Oh, vous trouverez dans la contemplation de Christ un remède à toutes les blessures, dans la méditation du Père, un apaisement à tous les chagrins, et dans l'action du Saint-Esprit, un baume à toutes les souffrances. Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Alors plongez-vous en Dieu comme en une mer profonde. Perdez-vous dans son immensité. Vous en ressortirez reposé, rafraîchi et plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu. C'est à cela que je vous invite ce matin. Une belle introduction, n'est-ce pas? Qui donnait envie d'écouter la suite. Et le jeune homme qui a prononcé ces paroles n'avait en fait que 20 ans. Il s'agissait de Charles Spurgeon, qui sera surnommé plus tard, et on comprend pourquoi, le prince des prédicateurs. Mais bien qu'il soit encore très jeune, Charles avait déjà compris ce qui est bien entendu l'essence même de la vie chrétienne. Dieu, connaître Dieu, se plonger en Dieu, au-delà de tout le reste. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, dit évidemment la même chose. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, voilà ce qui compte vraiment. Connaître Dieu, voilà ce qui devrait être le cœur de toutes nos pensées et de toutes nos actions. Connaître encore et toujours Dieu. Qui il est et comment il est. Ce qu'il fait et comment il le fait. et grandir toujours plus dans cette connaissance. Et donc, comme M. Spurgeon, c'est aussi ce thème que je vous invite à creuser ce matin. Connaître Dieu, la grandeur et la complexité de cette quête, d'abord. Et puis quelques pistes pour nous y aider ensuite. En toute humilité, bien sûr, tant ce thème est profond et infini. Et tant pour ma part, en tout cas, je me sens encore bien loin de ce à quoi j'aspirerai dans cette connaissance. Mais allons-y tout de même. Et j'ajoute avant de commencer que ce que je vais dire est largement inspiré de l'ouvrage de James Packer qui est justement nommé « Connaître Dieu ». Déjà, les prophètes de l'Ancien Testament l'affirmaient sans ambiguïté. « Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes », disait Dieu par la bouche du prophète Osée. Et Jérémie rajoutait « L'Éternel dit ceci, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre. Car ce sont là les choses qui me font plaisir, l'Éternel le déclare. » On ne saurait être plus clair, n'est-ce pas ? Connaître Dieu est bien le plus grand des objectifs de l'homme. Dehors, la sagesse, la puissance ou la richesse. Dehors, les sacrifices. La seule fin pour laquelle nous avons été créés, c'est connaître Dieu. La seule chose vers laquelle nous devons aller, c'est la connaissance de Dieu. La seule gloire que nous devons rechercher, c'est de mieux connaître Dieu. Et Charles Spurgeon nous le disait, ce sera pour nous une source d'humilité, une source d'exaltation, de consolation. Oui, connaître Dieu est une relation propre à bouleverser toute notre vie et tous nos quotidiens. Et la raison, finalement, s'en comprend aisément. Nous parlons du Dieu infini, du Créateur de l'univers, de la terre et du ciel, de Yahvé, celui qui est l'alpha et l'oméga, le Seigneur des armées qui tient le destin du monde entre ses mains. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes invités à connaître. Mieux même, c'est ce Dieu-là qui veut que nous le connaissions. Prenons un instant pour saisir la portée de cette vérité. Je prends une image pour nous y aider. Imaginez la personne la plus illustre qui puisse exister sur cette terre. Je mets quelques exemples à l'écran, mais peu importe, pensez pour vous-même à une de ces personnes qui a laissé une empreinte marquante sur cette terre et que vous admirez profondément. Et imaginez maintenant que vous soyez convié à la rencontrer. Moi, je me dis que même si cette personne nous adressait juste un regard distrait ou échanger avec nous quelques banalités, eh bien, on serait ravis d'avoir pu faire sa connaissance, d'avoir pu lui dire quelques mots, et on repartirait satisfait. Mais imaginez maintenant qu'une de ces personnes vienne vers vous, résolument, qu'elle entame avec vous une conversation profonde, qu'elle vous parle cœur à cœur, vous partage ses pensées, ses désirs, et s'attendre à ce que vous en fassiez de même. Et qu'en plus, elle fasse cela régulièrement, quotidiennement. Ne seriez-vous pas à ce moment-là comblé par cette relation privilégiée avec une telle personne ? Et en plus, l'image est réductrice. Car imaginez avec Dieu. Dieu qui veut que nous le connaissions comme une brebis connaît son berger, comme un fils connaît son père, comme une épouse connaît son mari. Oui, si on remet les choses en perspective, on comprend effectivement que rien n'est plus grand et plus important que cela. Que cette quête est bien la plus profonde qui puisse nous être donnée. celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel. Rien n'est plus glorieux que de connaître Dieu. Mais bien sûr, je continue, puisqu'elle est si grande et si unique, cette quête ne pourra pas être banale ou insipide. Au contraire, parce que Dieu est Dieu, le connaître sera l'entreprise certes la plus passionnante, mais aussi la plus complexe qui soit. Car on le sait, plus l'objet, entre guillemets, à connaître est complexe, plus la tâche pour le connaître le sera aussi. Il sera plus difficile, par exemple, de connaître parfaitement un être vivant que quelque chose d'inanimé, comme un livre ou même une langue. Et il sera plus difficile encore de connaître un être humain dont la pensée et le cœur sont profonds, plus profonds que notre être vivant. Alors Dieu, connaître Dieu, le Dieu infini, quel programme, si j'ose dire, quel parcours, quelle complexité. On pourrait presque en être découragé quelque part. Mais ce serait dommage, parce que si elle est complexe, cela veut-il dire que cette quête est pour autant illusoire? Mais dans ce cas, Dieu serait incohérent, parce qu'il nous demanderait quelque chose qui nous est impossible. Cela ne peut donc pas être le cas. Ainsi, connaître vraiment Dieu peut être une vraie réalité pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, l'apôtre Jean nous le dit. Je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Elle est étonnante cette phrase, n'est-ce pas? Vous avez remarqué, c'est plus qu'une promesse, c'est une affirmation. Vous connaissez Dieu. C'est un fait à prendre tel qu'il est. Alors bien sûr, Jean ne prétend pas que nous connaissions Dieu parfaitement. Des êtres limités ne pourront jamais appréhender l'infini. Mais néanmoins, sans parler d'absolu, il prétend quand même que cette connaissance profonde est réelle. Et pourquoi peut-il affirmer une telle chose? Eh bien, parce que cette connaissance ne repose pas sur nos efforts ou sur nos mérites, mais parce qu'elle repose simplement sur le fait que Dieu en a décidé ainsi. Dieu a décidé qu'il voulait et qu'il allait se laisser connaître en profondeur. Et Dieu a fait en sorte que ça en soit le cas. Mais c'est une grâce, encore une fois, une grâce infinie, réalisons-le. Et donc, comme toute grâce, elle prend sa source en Jésus. Et c'est par Jésus que Dieu nous fait la grâce de se faire connaître. Jean dit encore, « Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. » Connaître Dieu par Jésus-Christ. Connaître Jésus pour connaître Dieu. Un lien indissociable. Certains d'entre vous connaissent d'ailleurs peut-être cette réponse que Jésus fera en ce sens à Philippe, un de ses disciples. « Seigneur, montre-nous le Père, disait Philippe, et cela nous suffira. »« Et quoi ? » lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Jésus est celui qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. C'est une grâce, mais c'est une réalité. Connaître vraiment le Dieu infini, être vraiment en relation avec lui dans toute la profondeur de ce mot, c'est pour nous aujourd'hui. Alors bien sûr, cette connaissance sera progressive, comme dans toute autre relation. Chaque étape nous permettant de découvrir une nouvelle facette de l'autre ou d'approfondir ce qu'on connaissait déjà. Bien sûr aussi, nous aurons notre part à jouer, comme dans toute autre relation, encore une fois. Et le désir que nous manifesterons à approfondir notre lien avec Dieu impactera naturellement la qualité de cette relation. Oui, mais l'essentiel ici est ailleurs. L'essentiel, c'est que grâce à Jésus, la porte a été ouverte et que Dieu est prêt à cette connaissance. Bien plus qu'il l'attend, qu'il la désire et qu'il la cherche encore plus que nous. Et ça, ça devrait être vraiment pour nous un sujet de grande joie. Si je résume cette première partie, je dirais que connaître Dieu est effectivement une route sans fin, mais que c'est la plus belle des routes, sur laquelle, qui plus est, on peut avancer gratuitement, sans péage. Mais bien sûr, cela nous amène à une deuxième question, deuxième point que je voulais aborder avec vous. Maintenant, comment avancer efficacement sur cette route de la connaissance de Dieu? C'est-à-dire, comment mieux connaître Dieu? Dit autrement, quelle est notre part à nous, en fait, dans cette histoire? Toujours porté, bien sûr, par l'œuvre de Jésus, qui nous introduit, qui nous maintient, qui nous enracine dans cette connaissance, et qui fait toujours la plus grande part. Mais que pouvons-nous faire de notre côté pour y progresser? Et je vous propose de relever deux points. Le premier est que si vous désirez connaître Dieu, eh bien vous devrez aller à sa rencontre dans l'endroit où on parle de lui. Je veux parler de la Bible, bien sûr. La Bible est la révélation des promesses, de la volonté et des actions de Dieu. La Bible nous dit qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et ainsi de suite. Aussi, si nous voulons le connaître, nous n'aurons d'autre choix que de nous plonger résolument dans ce livre qui nous parle de lui. Et alors, ça peut sembler couler de source de dire ça. C'est une évidence quelque part. Mais je me demande au fond si parfois cette réalité nous est si naturelle que ça. Aller approfondir notre connaissance de Dieu dans la Bible est-il bien toujours notre premier réflexe, notre premier désir ou notre première habitude? Je ne suis pas toujours sûr. J'ai parfois plutôt l'impression que ce qu'on fait le plus facilement, c'est un peu de nous construire notre propre image de Dieu, de nous fabriquer en fait le Dieu qui nous convient à un moment donné, celui qu'on désire, celui qui nous ressemble ou qui nous arrange. Et ça, on sait bien le faire en piochant ici ou là, un peu dans notre société, un peu dans notre histoire, dans notre caractère ou dans nos ressentis. Je crois qu'il y a ici un vrai risque pour chacun de nous. Je vous prends quelques exemples. Je lisais un auteur d'abord qui prétendait, avec une certaine pertinence me semble-t-il, sans trop généraliser non plus, mais qui prétendait que nous, les Occidentaux, nous voulions bien en général d'un Dieu rempli d'amour et de pardon, et qu'on mettait ces réalités très en avant, à juste titre d'ailleurs, car Dieu est indéniablement un Dieu d'amour et de pardon, mais que nous avions par contre parfois tendance à oublier ou simplement à minimiser les réalités tout aussi vraies pourtant, d'un Dieu saint, souverain, transcendant, avec pour risque d'arriver à force à une vision assez bon marché de la grâce, pour ne pas rendre un terme connu, au mépris d'un certain entrain concernant notre marche vers la sainteté. Ou encore, on pourrait parler du contraire, de cette insistance marquée et marquante sur les commandements et sur la façon de se comporter, qui est vrai là aussi, mais sur une certaine idée de Dieu, des efforts à faire et de la discipline religieuse, qui vient délaisser comme une contrepartie la part essentielle de Dieu justement et son œuvre, de son œuvre de grâce dans la vie chrétienne, dans la poursuite de la vie chrétienne. Ou alors encore un dernier exemple qui vient lui aussi d'une vision un peu bancale ou déséquilibrée de certaines vérités bibliques, c'est ce fameux évangile de la prospérité qu'on entend et son accent disproportionné sur la notion de bénédiction et de bonheur terrestre. Et ainsi de suite, la liste n'est pas du tout exhaustive. Mais dans tout cela, on se rend compte, il y a le danger d'une vue bancale ou partielle de Dieu. Il y a une partie qui nous vient de la Bible, et puis il y a peut-être une partie qui nous vient de nous-mêmes, qu'on rajoute un peu. Et qui finit par aboutir, mais inconsciemment bien souvent je crois, finalement à une sorte de caricature de Dieu, une sorte d'idole même en fait. Et c'est pour cela qu'il est vital, pour combattre cette tendance naturelle qu'on a tous, je crois, et qu'heureusement Dieu accompagne toujours avec grâce et patience. Mais il est vital d'aller encore et toujours à la source, de mieux connaître sa parole et de prendre de manière équilibrée tout ce qu'elle nous dit de lui, ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins, ce qui nous est naturel et ce qui nous l'est moins. Et aussi ce que l'on comprend et ce que l'on comprend moins, ou ce que notre société valide et ce qu'elle valide moins, et ainsi de suite. Connaître vraiment le vrai Dieu sera à ce prix-là. Mais c'est certain, ce sera parfois difficile. Ce sera d'abord intellectuellement difficile, car il y a clairement des notions qui nous dépassent dans la Bible. La logique de la Trinité, l'accord entre notre liberté et sa souveraineté, par exemple. Ce sera aussi parfois moralement, j'ai envie de dire, difficile. Notamment quand il nous faudra rester à la lumière divine face à nos petites obscurités. Et dans toutes ces choses, on pourrait vouloir arranger certaines paroles de Dieu, n'est-ce pas ? Ou insister sur certains points au détriment d'autres, pour rendre le tout plus compréhensible, plus acceptable, plus accommodant ou plus naturel pour nous ou pour les autres. Mais on ne pourra pas, encore une fois, si on veut vraiment apprendre à connaître le vrai Dieu. Et puis, heureusement, tout n'est pas négatif. Et il y aura, bien sûr, l'autre versant de cette découverte biblique du vrai Dieu. Et ce sera souvent tellement libérateur pour nous d'apprendre à mieux le connaître, sans les ajustements de nos faibles raisonnements. Son pardon et sa grâce qui n'ont jamais, jamais de mesure. Son espérance vivante qui demeure et qui demeure encore. Ou sa justice parfaite qui, il l'a promis, s'exercera un jour, quoi qu'il arrive. Oui, en tout cas, quel privilège de rencontrer un si grand Dieu à travers les Écritures. Alors que nous soyons encouragés à nous plonger encore et encore au cœur de cette parole, et que nous puissions y détruire au fur et à mesure nos petites idoles, nos veaux d'or sans vie, nos fausses conceptions, pour contempler toujours le vrai Dieu dans toute sa richesse. Une richesse complexe, c'est sûr, mais une richesse tellement vivifiante. Et c'est pour cela aussi que, pour ma part, dans cet objectif, durant 3 autres prédications que je ferai d'ici à cet été, j'aimerais vous proposer également de partir à la découverte de certaines caractéristiques fondamentales de ce Dieu. Des caractéristiques qui apparaissent dans les Écritures et qui nous aideront justement à mieux le connaître. Le Dieu souverain, majestueux et immuable, le Dieu sage, juste et vrai, le Dieu d'amour, de paix, de bonté. Sans faire le tour de la question, bien sûr, encore une fois, qu'il le pourrait, et c'est la raison pour laquelle rien ne remplacera une lecture personnelle et approfondie de l'Écriture pour grandir vraiment dans la connaissance de Dieu. Mais en tout cas, pour nous encourager dans ce sens. Et puis, ensuite, au-delà de la lecture et de la découverte dans la Bible de la véritable personne de Dieu, il nous faudra sans doute aller encore un petit peu plus loin. Et c'est le deuxième point que je voulais relever. Parce que c'est une évidence. En apprendre sur Dieu, même beaucoup, même de manière équilibrée, ne voudra pas forcément dire que l'on connaîtra Dieu. Les pharisiens en étaient le parfait exemple, et nous ne sommes pas non plus à l'abri de tels écueils. Et on peut certainement maîtriser avec force expertise la Bible, la théologie et la doctrine de Dieu, l'histoire et les fondements de l'Église, les attentes de la vie chrétienne et toutes les disciplines spirituelles, mais ne rien vraiment connaître de Dieu. Et ça, c'est bien triste. Alors bien sûr, toutes ces choses que je viens de citer sont bonnes et elles nous permettent effectivement de mieux le connaître. Car il est évidemment plus facile de ne rien connaître de Dieu quand on ne connaît rien sur Dieu. Mais malgré tout, elles ne sont pas non plus une garantie. Et si on veut réellement croître dans cette connaissance profonde de Dieu, il va nous falloir encore passer de l'extérieur à l'intérieur, de l'esprit au cœur. Comment ? Comment faire cela ? Un élément de réponse peut-être. Je dirais, en méditant devant lui et avec lui, ce que nous aurons appris sur lui. Je la répète cette phrase parce que je l'aime beaucoup. Elle n'est pas de moi. En méditant devant lui et avec lui, ce que nous aurons appris sur lui dans la Bible. En nous imprégnant de ce que nous découvrirons de lui, de ses qualités, de ses œuvres, de ses buts, de ses promesses. En nous y arrêtant, en y revenant encore et encore, en les laissant nous rencontrer et nous impacter. En fait, comme dans une autre relation, mari et femme, parents et enfants, amis et amis, approfondir notre découverte et notre perception de l'autre. Approfondir notre connaissance de l'autre. Dépasser le stade du superficiel pour avancer et nous engager en profondeur. Et d'ailleurs, le mot « engagement » me semble important ici. Car pour connaître vraiment quelqu'un, en plus de la dimension de l'esprit, de celle du cœur ou des sentiments, il y a de toute évidence cette dimension de la volonté et de l'engagement. S'engager auprès de la personne que l'on veut connaître. Prendre ses intérêts à cœur. Partager ses soucis et ses préoccupations. Faire nôtre ses joies et ses combats. Se tenir à ses côtés. Apprendre à aimer ce qu'il aime. Goûter ensemble aux mêmes choses, et ainsi de suite. Je prends une illustration personnelle qui m'est venue à l'esprit quand j'ai écrit ceci. Je vous place dans le contexte. Moi, j'ai toujours aimé regarder le foot à la télé. Et quand j'avais autour de 20 ans, j'étais un vrai passionné, et je regardais au moins 4 matchs par semaine. Et puis, les années passant, ma passion s'est petit à petit étiolée, voire même éteinte. Jusqu'à ce que mes garçons grandissent et se mettent eux aussi à aimer le foot. Et alors là, tout m'est revenu. Et je me suis réembarqué avec eux. Mais, et ça m'a vraiment sauté aux yeux, c'est devenu pour bien plus que juste le plaisir des matchs. C'est parce que j'ai goûté combien il est bon de vibrer ensemble pour les mêmes choses. Et combien ça nous rapproche. Et il en est de même, je crois, avec Dieu. Si nous voulons mieux le connaître, alors vibrons pour ce qui le fait vibrer. Aimons ce qu'il aime. Recherchons ce qu'il recherche. Désirons ce qu'il désire. Découvrons dans la Bible son cœur et ses passions et prenons-les pour nous-mêmes. En croyant avec foi que de son côté, lui, il va savoir par son esprit agir en nous pour que notre cœur s'harmonise authentiquement avec le sien. Car alors oui, petit à petit, nous le comprendrons mieux. Petit à petit, nous le connaîtrons mieux. Petit à petit, nous approfondirons nos liens et notre relation avec lui. Et notre amour grandira. Connaître Dieu. Voilà bien la plus extraordinaire des aventures. Alors que nous soyons encouragés dans cette route, afin d'y marcher résolument, avec joie et avec zèle, car il n'y a pas de plus belle quête sur cette terre qui nous ait été donnée. Et puis je voulais conclure en parlant d'une autre chose qui vient comme un pendant de cette connaissance de Dieu, une autre vérité essentielle. Cette autre vérité, c'est simplement de savoir que nous, de notre côté, on est connus de Dieu. C'est de savoir que notre nom est gravé sur la paume de ses mains. C'est de savoir que nous sommes constamment l'objet de ses pensées, que ses yeux ne se détournent pas un instant de nous, qu'il prend nos intérêts à cœur, qu'il se préoccupe de ce qui nous préoccupe et qu'il aime par-dessus tout approfondir la relation que nous avons. En résumé, et pour finir, je dirais connaître et être connu. Nous voici face à la possibilité, mieux même, nous voici face à la réalité d'une relation réciproque et profonde avec le grand Dieu de l'infini. Que dire de plus ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, comment ne pas tomber à genoux devant une telle abondance de dispositions à notre égard ? Et comment ne pas vouloir aller plus loin dans la découverte de ce Dieu-là ? Je veux connaître Dieu. Je veux qu'il me connaisse. Qu'il en soit ainsi, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.